Bonsoir à tous ceux que je passe à lui. On est en train de terminer l'épître aux Philippiens. Vous allez dire, c'est une bonne nouvelle. Ça fait déjà un an et demi que l'on a commencé. Et c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir épuisé la question et même d'être resté en dessous de certains points qui, quand même, ont une très grande importance. L'Épître aux Philippiens, je vous l'ai dit et répété à plusieurs reprises, a été écrite pour l'occasion d'une dispute, d'une querelle entre deux personnes dans l'Église. Et c'est vrai qu'au travers de tout ce que Paul dit, eh bien, on a des enseignements, comment vivre la vie chrétienne. Parce que la dispute n'est jamais une... Ça résonne, hein. La dispute n'est jamais à la gloire de Dieu. Et ne fait jamais grandir l'Église. C'est même si on se dispute pour la bonne cause, pour de bonnes raisons, on ne sert pas l'Église, on ne sert pas la cause de Dieu. Vous avez tort d'avoir tellement raison quand vous vous disputez. Voilà. Et je suis concerné parce que on a tellement tendance à vouloir avoir raison. Je ne sais plus quel est le grand serviteur de Dieu qui a dit « Seigneur, pardonne-moi mon habitude de toujours vouloir avoir raison. » On veut toujours avoir raison. Et on ne veut pas avoir tort. Et même quand on a tellement raison que finalement on a tort d'avoir raison comme cela. Voilà. Donc je voudrais quand même ajouter plusieurs idées sur ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que c'est bien de compléter. Un prédicateur avait prêché un jour un message qui s'appelait « Comment ne jamais amener une âme au salut ?» Comment prêcher de manière à ne jamais amener une âme au salut ? Et alors, un des points, c'est « Surtout, ne répétez jamais ce que vous avez dit. Il risquerait de s'en souvenir. » vous pouvez m'accuser de répétition. J'assume, je répète, et je me répète, et je ne me lasse pas, comme disait Pierre, de vous dire les mêmes choses, et cela pour vous, cela est salutaire. Et non seulement salutaire pour vous, mais pour moi-même aussi. Parce que ça m'a fermé aussi dans des choses que je sais ou que je crois savoir, et j'ai besoin aussi de les apprendre, comme vous. Parce que je vais vous dire un grand secret. Je le dis à tout le monde, même au micro comme ça, c'est la première personne à laquelle je prêche, c'est moi. Et souvent, les gens disent, mais tu sais, tu as prêché, c'était pour moi. Non, non, j'ai lu un passage, et ce passage m'a tellement interpellé, m'a tellement repris, que j'avais besoin d'en parler, et de dire que, mais c'était moi-même qui était repris. Voilà. Et donc, dans ce passage de la dernière fois, c'était les versets 2 à 9, eh bien, on avait vu que ces deux personnes qui se disputaient, bon, Paul l'a décrit, hein, il a dit, voilà, elles se disputent, mais il donne la solution, comment on peut régler le problème, sans passer par une confrontation avec un grand orage, et de grandes élaborations de mots et d'idées, de discours et de toutes ces choses. C'est la première chose, c'est qu'on doit être des doux. Ayez une réputation de douceur. Et c'est le verset, hein. Donc il dit, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est une réputation de douceur. C'est la douceur doit être le propre d'un chrétien. Quand on voit un chrétien, on doit être attiré par sa douceur. Il y a un verset des Proverbes que peut-être vous n'avez jamais remarqué, mais c'est pour les hommes que je le dis, hein. Les dames n'ont pas besoin d'entendre. Il est dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alors si vous vouliez savoir qu'est-ce qui fait le charme d'un homme, mesdames, eh bien vous le savez, c'est la bonté. Dans ce monde, c'est la dureté. C'est si quelqu'un a un mauvais caractère, j'ai lu ça, c'est un article de sociologie que j'ai lu il y a quelques années, c'est comment on recrute dans les grandes entreprises, on choisit des personnes qui ont mauvais caractère, des personnes invivables, des personnes qui sont capables de balancer le bureau devant le patron et de mettre le poing sur la table et de crier. Parce qu'on dit là, ce sont des personnes qui ont de la personnalité. Elles savent s'affirmer, elles savent s'imposer. Donc elles réussiront dans le métier parce qu'elles savent imposer, s'imposer et imposer leurs idées. Donc ce qui fait la gloire de ce monde, c'est exactement ce que Dieu condamne. C'est si Jésus-Christ est venu sur la terre, il a été comparé à un agneau, doux et humble de cœur. Et il a dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Il y a un philosophe qui s'appelle Yankelevitch, que j'aime beaucoup. Il est juif, hein, et je ne sais même pas s'il n'est pas décédé l'année dernière ou il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Mais Yankelevitch disait un jour, il a écrit un livre qui s'appelle Le pur et l'impur. En fait, c'est le bien et le mal. Hein, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est le bien et le mal. Et il parle de l'humilité. Et il dit une chose très vraie, que celui qui parle de son humilité a cessé d'être humble. Et il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul qui pouvait dire je suis humble. C'est Jésus-Christ. C'est un philosophe, hein, je vous le recommande. C'est un enfant d'Israël. Mais c'est quelque chose, vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ était doux et humble. Et les foules allaient après lui. C'est les gens violents, les gens méchants, les gens durs n'ont pas convaincu. Les gardes sont allés voir pour rendre les chefs du peuple, le Sanhédrin, ont envoyé les huissiers pour se saisir de lui. Et c'est dans l'évangile de Jean. Et ils sont revenus et ils ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené? Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est parce qu'il y a de l'amour, de la douceur, de la patience. Et c'est pour cela que quand Paul parle, il dit, ayez une réputation de douceur. C'est pas seulement d'avoir la réputation, mais c'est d'être des doux. Ça doit être connu. C'est ne pas offrir de résistance. Il n'y a pas une opposition. Il n'y a c'est le comment dire, il n'y a aucune aspérité, aucun rien qui puisse accrocher la colère ou la dispute. On n'est pas un terrain favorable pour la dispute et pour la querelle. Si vous voulez vous disputer, je ne suis pas là. Je ne me dispute pas. Nous sommes chrétiens. Nous appartenons au corps de Christ. Et c'est un de nos privilèges chrétiens d'avoir une bonne réputation. Et la douceur est une bonne réputation. Et c'est ce que Paul dit. Soyez connus pour votre douceur. Donc, c'est le contexte, c'est la dispute de ces deux personnes, hein. Donc Paul, 2 versets plus loin, dit « Ayez une réputation de douceur. » C'est ça, c'est une première chose sur laquelle je ne vais pas insister davantage. Il dit simplement « Le Seigneur est proche. » Hein? Comme le Seigneur est proche, bon, il était proche du temps de Paul, il est d'autant plus proche de notre temps. Hein? On peut dire qu'il est beaucoup plus proche maintenant que du temps de Paul, 2000 ans après. Mais on peut dire que c'est quand même, c'est motivant de chercher les choses essentielles, les vraies valeurs, pas les valeurs de ce monde, pas les valeurs de ce monde, les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, la douceur. C'est ça, c'est quelque chose d'important. Le Seigneur est proche. Alors si vous n'avez pas fait de progrès dans la douceur, alors hâtez-vous, parce que le Seigneur est proche. Ne vous laissez pas beaucoup de repos, parce que nous allons un jour rencontrer celui qui avait la réputation et celui qui pouvait dire, sans que on puisse le contredire, je suis doux et humble de cœur. Et c'est lui que l'on va rencontrer. Et en douceur, question de douceur, eh bien, il s'y connaît. Il va savoir si notre douceur, c'est de la contrefaçon ou si c'est de la véritable douceur. Mais parfois, il y a des personnes qui, leur douceur, ce n'est pas de la douceur. C'est de la mollesse. C'est de la faiblesse. C'est de la timidité. C'est de la lâcheté. Ce n'est pas la douceur, ça. Alors ne vous y trompez pas. La vraie douceur, elle est forte. C'est toujours dans les proverbes. Il dit, une langue douce brise des os. C'est avec douceur, on peut dire des vérités essentielles, très fortes, très puissantes. Le Seigneur Jésus n'a jamais élevé la voix. Et il y avait même une prophétie qui disait, il n'élèvera pas la voix dans la rue. Et je pense que ceux qui voulaient écouter le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont dit, oui, il a prêché à des foules, ceux qui voulaient écouter le Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'ils s'approchent. Ceux qui se tenaient éloignés n'ont rien entendu. Ils l'ont vu, ils ont constaté les miracles, mais n'ont rien entendu. Parce qu'il était doux. Et sa prédication était douce. Et il n'élevait pas la voix. Il ne criait pas. Ensuite, il dit, ne vous inquiétez de rien. Il y a des tensions, il y a des moments difficiles, il y a des personnes qui s'opposent à vous, il y a des sujets de querelle. Eh bien, on doit être sans inquiétude. Alors là, c'est la vérité. Hein. Après, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Parfois, c'est un combat. C'est un combat terrible que vous luttez contre, vous-même. C'est l'ennemi qui vous assiège et qui a envie d'avoir raison et qui a envie de s'inquiéter et qui ronchonne au fond de lui-même et qui ressasse des idées de vengeance et de ceci et cela. Eh bien, c'est nous-mêmes. Et on a besoin de ne vous inquiéter de rien. Alors, quand il est dit de rien, c'est de rien. C'est pas de peu de choses ou de presque tout, mais c'est de rien. On doit s'inquiéter de rien. Et c'est vrai qu'il y a des... Satan va toujours essayer de mettre la division entre nous. Je ne suis pas prophète. Hein. Mais je peux vous prédire qu'il y aura des divisions entre nous. Qu'il y aura des sujets de querelle. Qu'il y aura des tensions. Parce que Satan existe et qu'il suscite des occasions, des malentendus, des paroles légères, faciles, que l'on prononce sur les uns et sur les autres, et qui portent ombrage. Et notre réaction à nous, eh bien, c'est de répondre sans inquiétude, par la douceur. C'est la douceur de Christ. Et nous avons besoin d'apprendre cela. Et c'est... Alors vous dites, oui, mais je suis dans une situation difficile, parce qu'il y a ceci, il y a ça, et... Bon, mais en fait, c'est l'occasion de prouver votre douceur. Nous sommes tous à l'école. Nous sommes en train d'apprendre. La vie chrétienne, c'est une vie où Dieu parle et on met en pratique. On est constamment en train de passer des examens. Voilà. Et c'est dans ce moment difficile, alors nous allons prouver ce que nous sommes. Si nous avons bien appris ce que nous devons apprendre, ou si nous sommes encore, nous avons besoin d'apprendre davantage. Je me rappelle quand mes enfants sont revenus avec les carnets de notes, il y avait plusieurs évaluations que je n'avais jamais soupçonné que ça pouvait exister. Mais il a dit « acquis », « en voie d'acquisition », c'est ou « non acquis ». Voilà, donc il y avait à peu près 3 niveaux. Dans certains sujets, les élèves n'avaient pas acquis, ils avaient reçu des informations et ils n'avaient pas maîtrisé leur sujet. Donc ils devaient repasser, ils devaient réapprendre et c'est une bonne évaluation. Ou c'est en voie d'acquisition, ils ont compris mais ils ne savent pas encore appliquer. Et on peut dire que dans notre vie chrétienne, on a à peu près ces 3 niveaux. Et les épreuves, les tensions, Dieu permet que Satan vienne nous perturber avec les frères et sœurs. Et heureusement, c'est parce que les frères et sœurs sont là pour ça aussi, hein, pour nous aider. Et bon, bien sûr, ils le font involontairement et ils ont besoin de demander pardon après pour ce qu'ils ont fait. Mais on a besoin d'apprendre. Et Dieu permet à Satan, eh bien, de nous tenter et de nous confronter avec des difficultés, des tensions, des moments que nous n'aurions pas souhaités pour que nous apprenions. Et pour que, ou que notre douceur se manifeste, et que la réputation de douceur, et que les gens voient et disent, voilà le chrétien que j'aimerais être. Et je peux vous dire, dans ma vie, j'ai rencontré quelques hommes et quelques femmes de Dieu. Et j'ai dit, j'aimerais être comme cette personne dans tel domaine. Voilà. Je me rappelle, j'étais étudiant à l'Institut biblique. Il y avait un Pakistanais. C'était un grand gaillard tout maigre. Et je l'avais dans ma chambre. Voilà. Donc, c'est mon camarade de chambre. Et alors, il rendait grâce à Dieu pour tout. Tout! Tout! Même son estomac. Bon, il était grand et maigre. Et il trouvait qu'il avait grossi. Alors, moi, je me dis, s'il a grossi, je ne... Mais non, il rendait grâce à Dieu d'avoir quand même pris du poids. Oh, c'était 100 grammes peut-être ou 200 grammes, je ne sais pas. Mais parce que dans son pays, il ne mangeait pas toujours à sa faim. Hein. Et là, il a commencé à prendre un petit peu de poids. C'est, oh, mais aujourd'hui, c'est le docteur. C'est notre docteur en théologie. Je l'appelais « rendez grâce en toutes choses ». C'est, voilà. Et d'autres comme cela qui étaient, je pouvais mettre un verset sur eux parce que ils étaient la démonstration de ce qu'ils avaient appris quelque chose dans la vie chrétienne et dans la parole de Dieu. Donc je pouvais écrire, j'aurais pu, si un jour j'avais la photo de cet homme, je peux mettre dessous rendez grâce en toute chose. Même si on oublie son nom, c'est l'important, c'est ce qu'il était. Et il y a des personnes comme cela, c'est ou remplies d'amour, hein, si vous les trouvez dans le voyage du pèlerin, ces personnes qui s'appellent fidèles, et puis je perds les noms maintenant, il y a longtemps que je n'ai pas lu le voyage du pèlerin, mais c'est vrai qu'ils ont tous des noms d'une qualité. Hein. C'est quelque chose, vous savez, c'est d'avoir appris. On a tendance, nous, à prendre le mauvais côté des choses. Donc on prend par la rébellion, par la colère, par la revendication, par la dureté, par l'inquiétude, par toutes ces choses qui sont mauvaises. Alors que la véritable solution, c'est Paul qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu » par des prières, hein, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et dans ces moments difficiles où vous êtes dans un conflit, dans un combat terrible, hein, parce que vous avez été brimé, parce que vous avez été victime d'une injustice, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a brutalisé votre vie et qui a rendu difficile votre parcours, eh bien, au lieu de passer à l'offensive, vous avez la bonne solution. Alors, ces versets sont en général employés pour exhorter à la prière et comment on doit prier. Mais dans le contexte, Paul le dit dans cette situation de division, de tension et de querelle. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, de quelque sorte que ce soit, alors remettez les choses entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ne le ressassez pas, ne le retournez pas. Et je peux vous dire, j'ai pu passer des nuits sans dormir, à repasser et repasser et repasser et repasser. Et des nuits de combat, où finalement, à un moment, je dis, Seigneur, prends tout. Je remets tout entre tes mains. C'est toi qui t'occupes de ce problème. C'est quelque chose, vous savez, combien notre cœur est dur, combien nous devrions avoir le réflexe instantanément de tout remettre entre les mains de Dieu. Et vous avez, hein, vous avez quand même gagné. Et puis la nuit suivante de nouveau, on n'arrive pas à dormir et ça tourne et ça retourne et ça tourne. Et il a dit ça, et il a fait ça, ils n'ont pas été comme si, et il y a telle chose et telle autre chose. Et ça retourne encore, et il y a encore le combat, et ça fait deux nuits. Et je peux vous dire, il n'y a que le jour qui vous laisse tranquille parce que vous êtes actif et vous regrettez de ne pas être actif. Hein. Et je me rappelle m'être levé et d'être allé à l'ordinateur, n'importe quoi, hein, faire n'importe quoi, mais ne plus avoir les pensées qui tournent dans la tête. Mais ce ne sont pas les bons réflexes. Les bons réflexes, ne vous inquiétez pas, remettez tout, reposez-vous entre les mains de Dieu. C'est lui qui a votre vie entre les mains. On ne gagne pas. Quand on est en train de repasser de rancune à rancune et rancune, et on tourne et on tourne et on tourne, on perd du temps. Alors qu'il serait si facile, et je vous parle Ce sont des paroles. Ne croyez pas que c'est facile. Et je ne prétends pas que ce soit facile. Et il y a des combats. Et il y a des chrétiens qui ont passé des nuits et des nuits et des nuits en prière, en combat, pour réussir à obtenir la victoire. Et la victoire n'était pas décisive. Mais le lendemain, il y avait encore, il y a encore, il y a encore des combats. C'est des supplications. Hein, c'est le mot qui est employé. Des supplications. Et des actions de grâce. Et le triomphe, c'est l'action de grâce. C'est là qu'on loue le Seigneur. Et on lui dit, Seigneur, quoi qu'il en soit, dans cette épreuve, je veux glorifier ton nom. Je veux servir à ta gloire. Même si l'épreuve devait durer, même s'il ne devait pas y avoir de fin à cette épreuve, je veux te louer et je veux te rendre grâce pour cette situation. Parce que tu me permets, tu m'as fait confiance pour que je te glorifie dans une pareille épreuve et que je sois un sujet de louange. C'est que je suscite la louange vers toi pour des exaucements, pour des victoires, et que je puisse dire, il y a un Dieu qui délivre, un Dieu qui combat pour moi, un Dieu qui me donne la victoire. Et la première victoire, ce n'est pas sur les autres, c'est sur soi-même. Parce que c'est sur son propre cœur. Et là, c'est là le combat. Et c'est le but. On parle toujours de Job. Job, son problème à Job, c'est qu'il avait besoin de connaître Dieu. Il le connaissait d'une certaine manière qui n'était pas suffisante. Et Dieu voulait qu'il le connaisse, se faire connaître d'une autre manière. Et Job connaissait Dieu par ouï dire, par raisonnement. Mais quand, à la fin de son épreuve, quand il a été bien prêt par l'épreuve, Dieu s'est révélé. Et il a découvert Dieu comme une révélation. Ce n'était plus le fruit de son raisonnement ou le fruit de ce que les autres pouvaient dire, mais c'était une révélation de Dieu. Il avait besoin de cela. Nous avons besoin dans nos épreuves, dans ces tensions, dans ces moments difficiles, de nous tourner vers Dieu. Et de dire, Seigneur, je me confie en toi. Quoi qu'il en soit, j'irai jusqu'au bout. C'est là le triomphe de l'épreuve, vous savez. On commence par vouloir grandir, avancer. On veut marcher avec le Seigneur, on veut vivre pour lui. On ne veut pas vivre pour avoir raison, pour triompher, pour piétiner les autres, pour dire, voilà, moi j'ai raison. Et on fait un scandale. Vous pouvez le faire. Qui peut vous en empêcher? Et cela va servir à quoi? Et les personnes qui ne sont pas concernées, qui vont entendre ce que vous avez à dire, est-ce qu'elles vont être édifiées? Est-ce qu'elles vont être fortifiées? Est-ce qu'elles vont aimer faire partie de l'Église? Est-ce qu'elles vont dire, ah mais ça c'est vraiment des frères et sœurs qui s'aiment? Quand nous avons raison, et je ne parle pas, hein, je répète, que vous aviez tort ou raison. C'est le fait de revendiquer, de parler et de dire à tort et à travers certaines choses cause énormément de mal et blesse et trouble des personnes qui sont mal affermies, qui sont justement en train de se poser des questions. Et il y a des personnes qui se disent, est-ce que je vais rester dans cette église ou est-ce que je ne vais pas choisir une autre église? Elles sont dans le doute. Parce que, bon, et puis vous avez un sujet de revendication et vous parlez à tort et à travers, vous dites n'importe quoi. Et la personne dit, bon, c'est vrai, cette église, il y a des problèmes. Et elle prend la décision d'aller dans une autre. Et vous avez travaillé pour la destruction de l'église. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Il suffit d'une fois. Ce n'est pas nécessaire de se mettre en colère tout le temps. Et je peux vous dire, c'est mon témoignage ici dans cette église, à deux reprises dans l'année écoulée, j'ai assisté à des querelles entre personnes. J'ai dit, qu'est-ce que... On est des chrétiens. Et j'ai voulu reprendre la personne, j'ai dit, arrête. On est là pour se réunir, on est là pour... C'était le culte, deux cultes. Et à chaque fois, les personnes ne veulent pas entendre. Elles sont tellement fermées, tellement dures. Elles ne veulent pas entendre raison. On a beau dire, mais il y a Dieu. qui est là. Parce qu'on va adorer Dieu. On est prêt à s'approcher de Dieu. Mais là, les personnes... Et je veux dire, cette colère, elle est diabolique. C'est le diable lui-même qui l'a suscité. Et ça trouble énormément, énormément. Après, comment peut-on se réunir et prier et prendre la Sainte Cène et dire « Ah, nous avons eu un bon culte. Le Seigneur était vraiment présent au milieu de nous. » J'ai conscience que ce sont des paroles dures, et peut-être que vous vous rappelez que vous avez été témoin de choses comme cela. Mais c'est un drame dans l'Église de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Pas quand vous aurez raison, hein. Quand vous aurez éliminé tous vos ennemis et que voilà, je suis moi dans la vérité maintenant. Quelle vérité. Mais la vérité, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est d'avoir rempli d'amour pour le frère, la sœur, qui vous a blessé. C'est là que se prouve votre amour. Mais l'amour que vous avez pour les gens que vous rencontrez une fois par semaine, avec lesquels vous n'avez jamais de problème, cet amour-là demande à être confirmé, à être prouvé. L'amour que vous avez pour les frères et sœurs, c'est dans les moments difficiles. Quand la personne a été blessante pour vous, elle vous a dit, clac, une petite parole qui vous a... On aurait préféré parfois une gifle, hein. C'est une façon de parler. Mais, eh bien, est-ce qu'on va encore l'aimer? Est-ce qu'on va prier pour cette personne? Est-ce que nous allons toujours la considérer comme un frère ou comme une sœur? Mais c'est là que nous sommes à l'école. C'est acquis ou pas acquis ou en voie d'acquisition. Et nous avons besoin de savoir que nous n'avons pas appris les leçons. Il y a des leçons que nous n'avons pas apprises. Malheureusement, on est encore en train de vivoter la vie chrétienne. Alors que l'amour fraternel dans les moments difficiles, dans les tensions, devrait être le premier réflexe. C'est élémentaire. Ça fait partie des rudiments de la vie chrétienne. Et nous n'avons pas encore acquis les rudiments de la vie chrétienne. C'est comme quelqu'un qui prétendrait passer le bac et qui ne sait pas lire et écrire. Ou qui ne sait pas encore écrire son nom. On aimerait bien avoir un réveil. On aimerait bien ceci, on aimerait bien cela. Ce sont des souhaits. Ce ne sont pas des réalités. Parce que quand on veut vraiment certaines choses, on commence par l'essentiel. On commence par les bases. Parce que si nous n'avons pas acquis les bases, le reste ne viendra pas. S'il y a des tensions entre nous, si on est toujours en train de se regarder, se chicaner, et ceci et cela, il ne peut pas y avoir de progrès. Parce que nous n'avons pas acquis l'essentiel. Parce que Paul dit que nous devons avoir une réputation de douceur. Mais il dit aussi, et le Seigneur Jésus dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est les bases. Si vous n'avez pas le fondement même de la vie chrétienne, eh bien vous ne pourrez pas avoir la suite. J'étais dans le bâtiment et je peux vous dire que c'est dur de travailler dans le bâtiment. Et j'avais un patron qui était le meilleur entrepreneur de la ville. Il avait une réputation. Les maisons qui étaient construites par cet homme, bon, c'était ses ouvriers qui construisaient, mais il supervisait tout, hein. Et ces maisons étaient fiables et c'était aucun problème. Aucun problème. Et c'était nous. On était les meilleurs ouvriers, puisqu'on était dans l'école les meilleurs ouvriers. Donc, on arrivait. Et un jour, j'étais au fond des fondations. Et il me dit, creuse encore. Et je creusais. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu as là? Ben, je lui ai dit, c'est de l'argile. Creuse. On ne bâtit pas sur l'argile. Et j'ai creusé encore. Et puis, ça prenait du temps, hein. Et puis, il me dit, où tu es? Qu'est-ce qu'il y a là, au fond? Ben, là, je crois que c'est du sable. C'est le sable d'alluvion. Ah, il m'a dit, là, c'est bon. Et regarde, c'est la profondeur. et regarder la profondeur. Et c'était jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qui était solide. Parce que la maison ne peut pas... vous avez une belle maison avec des beaux murs, avec un toit magnifique, hein, avec des portes qui ferment parfaitement, mais les fondations sont mauvaises. Et ce n'est même pas la fondation, c'est le sol sur lequel est bâtie la maison qui n'est pas bon. Et cet homme va jusqu'au fond. Et il faut arriver jusqu'à ce qui est solide. L'argile n'est pas solide. Ça glisse. Les maisons se fendront, se lézarderont, elles ne tiendront pas. Il faut arriver à ce qui est solide. Et c'est ce qui est dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas grandi dans la douceur, si vous n'avez pas grandi dans l'amour fraternel, cet amour qui est prouvé, hein, qui se démontre quand vous êtes dans les épreuves, dans les tensions, dans les moments difficiles, eh bien, vous n'avez pas vraiment grandi encore dans la vie chrétienne. Vous pouvez connaître beaucoup de choses de la Bible. Vous pouvez même être un érudit. Vous pouvez avoir un doctorat en théologie. Mais vous n'avez pas encore commencé à vivre vraiment la vie chrétienne. Parce que le commencement, c'est la douceur et l'amour. Et toutes ces choses se prouvent dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et il y a quelqu'un qui, un jour, après une prédication, qui m'a parlé brusquement, presque agressé, et la personne me dit, oui, mais tu te rends compte, tout ça, ce que tu dis, c'est bien beau. Mais quand tu te trouves dans une file et dans de supermarché, et voilà, il y a une personne qui passe devant, et comment tu fais? C'est normal de réagir et de... Et je lui dis, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah oui, mais ça, c'est la vie. Et la personne voulait quand même avoir raison. Je n'ai pas insisté, parce que quand la personne est inconvaincable dans ces choses-là. Mais c'est le problème. Mais bien sûr qu'on est agressé. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes. Vous êtes un fou rouge, il y a quelqu'un qui vous dépasse. Et je peux dire, il y a des chrétiens, le dimanche, on se dit bonjour, mais ne soyez pas à côté dans leur voiture. Surtout pas. Parce que là, ça râle, ça ronchonne, ça brûle des feux rouges, ça fait des manœuvres douteuses, et etc., etc. Et il m'est arrivé de dire, ben rien, c'est pas... Mais c'est comme cela, vous savez. La vie chrétienne commence dans les choses essentielles. Après, et bien sûr, il y a la vie de prière, il y a les réponses aux prières, il y a la foi. Toutes ces choses-là sont très importantes, mais c'est annulé et remis en question quand il n'y a pas l'essentiel qui est la douceur et l'amour. Vous pouvez avoir énormément de foi. Si vous vous mettez en colère dès qu'il y a un problème, ben, votre foi, elle n'est pas solide. Elle ne pourrait pas se manifester parce que vos prières c'est zéro. Ça n'a aucune importance parce que vous avez un esprit de colère, d'animosité, de rancune, quelque chose qui bouillonne en vous. Et vous allez prier et dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, conduis-moi, exauce mes prières. Et le Seigneur, excusez-moi, il va vous dire, mais mets ta vie en règle. Tu n'as pas prié dans cet état-là, avec cette colère et cette amertume, cette animosité. C'est pas possible. Ou Dieu peut vous dire, je n'écoute pas cette prière. Tu n'es pas dans un esprit de prière et de comme il faut. Tu viens un peu brutalement dans ma présence. C'est quelque chose, vous savez. C'est pour cela que Paul a pris la peine de d'écrire toutes ces choses. Mais il va un tout petit peu plus loin. Bon, verset 7, hein, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est quand on a gagné la victoire. On a triomphé de cet esprit de revendication, de querelle, de tension qui est en nous. On a réussi, on a gagné la victoire. Il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais Paul va plus loin, verset 8, il dit ce qui doit gouverner vos pensées. Parce qu'il y a l'inquiétude. Mais ceux qui gouvernent vos pensées, alors ce sont tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, tout cela soit l'objet de vos pensées. Mais si vous avez de la rancune, c'est de l'animosité, vous avez quelque chose qui bouillonne en vous, c'est pas aimable, c'est pas bon, c'est pas doux, c'est pas paisible, c'est pas juste. Ce qui doit gouverner nos pensées, parce que l'inquiétude vient de ce que nos pensées s'agitent en foule, dans tous les sens. Et il y a beaucoup de choses auxquelles nous pensons. Et on les pense, et nos sentiments, suite à ces pensées, ne sont pas bons. Alors Paul dit, il y a des commandements pour les pensées. Ne laissez pas vos pensées tourner dans des revendications, des amertumes, c'est ce qui est aimable, ce qui est bon, ce qui est doux, ce qui est paisible. Et un jour, je faisais la réflexion sur ce verset, je méditais, et je me dis, mais qu'est-ce qui remplit toutes les conditions? Qu'est-ce qui, dans mes pensées, si je pense à cela, je remplis tout. Et je me suis dit, mais c'est Christ. C'est Christ qui doit être l'objet de mes pensées. Christ qui doit remplir ma vie, qui doit remplir mon cœur, qui doit me réjouir en tout. Et c'est si lui, je suis proche de lui et lui est proche de moi, s'il y a une communion intime et profonde avec lui, eh bien mes pensées sont contrôlées. Elles ne pourront pas aller dans n'importe quel sens. C'est vrai qu'il y aura, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation et que des pensées ne vont pas arriver comme cela. Mais j'ai plus grand et plus merveilleux qui remplit mes pensées, c'est Christ. Et c'est dans cet épître que Paul disait « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. C'est quelque chose, vous savez. C'est le Christ qui remplit notre cœur. Parce que c'est sa douceur, c'est son humilité, c'est sa patience, c'est son amour. C'est lui qui remplit notre vie. C'est lui qui a pris possession de notre être. C'est lui qui est visible au travers de nous. Mais si nous avons un esprit de revendication, de querelle, de tension, c'est un esprit diabolique. Et je peux dire... vous pouvez dire que je ne fais pas attention à arrondir les angles et à adoucir un peu les choses, mais si je le faisais, je vous tromperais, je ne vous dirais pas la vérité, ou je vous laisserais dans votre erreur, ou dans des choses qui ne sont pas bonnes. Je ne veux pas arrondir les angles. C'est soit nous avons l'esprit de Christ, soit nous avons l'esprit du diable. Il y a des situations, vous avez le choix. Il n'y a pas de position intermédiaire. Dans la réaction que nous devons avoir par rapport à certaines situations, eh bien, nous sommes confrontés à deux esprits, lequel nous allons choisir. Et je peux vous dire, c'est quand vous triomphez et que c'est l'esprit de Christ qui gouverne et qui remplit, vous avez des réactions qui vous stupéfient. Vous dites, mais comment j'ai pu pardonner? Comment ça a pu être changé? Alors que j'ai été... Non, ça a été changé. Parce que Christ est intervenu. C'est lui qui a changé votre cœur. C'est lui qui a changé votre état d'esprit. Vous n'êtes pas un super chrétien. C'est seulement Christ en vous qui a eu la victoire. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez, et qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Alors vous avez beaucoup de livres, il y a des bibliothèques entières qui sont écrites. Je peux vous dire, les livres récents ne méritent même pas parfois qu'on ouvre la première page. On vous donne des méthodes, comment arriver, contrôler vos pensées. Il y a des livres d'une psychologie chrétienne, de contrôle des pensées, contrôle des sentiments, contrôle de ceci, contrôle cela, l'homme ceci, l'homme, la femme cela, le couple ceci. C'est de la psychologie chrétienne. Et elle ne vaut rien du tout, à mon avis. Je ne crois pas être méchant en disant ça. Ne perdez pas votre temps ni votre argent pour acheter ce genre de choses. Lisez la parole de Dieu. Ne faites pas de psychologie chrétienne. C'est Christ dans votre cœur. C'est Christ votre vie, c'est lui qui vous console, c'est lui qui est votre rocher, c'est lui qui est votre forteresse, c'est lui qui est votre consolation, c'est lui qui restaure votre âme, c'est lui qui vous conduit dans le bon chemin, c'est lui qui change votre manière d'être, votre manière de penser, qui fait de vous un homme ou une femme nouveau ou nouvelle. C'est là que se trouve la vérité. Parce que toutes les méthodes et les trucs et les machins que l'on dit et que les astuces nouvelles, tout ça, ça ne tient pas la route. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Restez-en à la parole de Dieu. Il y a suffisamment d'enseignements, suffisamment d'erreurs que des hommes et les femmes de Dieu ont commis. Vous lisez dans la Bible, et ces deux femmes qui se sont disputées, c'est malheureux. Mais dans une certaine mesure, on en reçoit l'instruction. Et c'est vrai que, elles avaient tort. Mais Paul a eu la bonne réaction, il a donné un enseignement. Il a dit, voilà, comment vous devez faire pour résoudre ce problème. Alors, avant d'entrer dans un conflit, parce que souvent, quand on est dans le conflit, c'est trop tard. Mais avant, alors, que Christ soit la première personne dans votre vie. J'en ai beaucoup parlé au chapitre 3. C'est Christ à la première place. Christ, notre joie. Christ, notre tout suffisant. Celui qui est vraiment le soleil de notre vie. Celui qui est la lumière. Celui qui nous réconforte, qui nous fortifie. Celui vers qui nous allons. Celui avec qui nous avons la communion, la meilleure communion. Et c'est comme nous avons l'habitude de le fréquenter, eh bien, au moment où nous sommes en difficulté, nous nous tournons vers lui et nous disons, Seigneur Jésus, là, je suis à bout de ressources, je ne sais pas comment faire. Il y a telle situation, tu connais, tu sais où j'en suis, tu sais ce qui s'est passé, et je suis troublé. Et vous répandez votre âme devant lui, votre cœur, vous dites, Seigneur, je ne comprends pas, viens à mon secours. Et vous pouvez, il y a même parfois, on verse des larmes, et on dit, Seigneur, secours-moi, parce que je suis dans une immense détresse. Je ne sais pas comment arriver, je n'ai pas de solution. Oh, mais je compte sur toi. Je regarde vers toi, toi qui es le seul soutien. Toi qui as dit, prenez sur moi mon joug, parce que je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Vous avez les choses qui viennent. Et devant votre meilleur ami, et vous lui dites tout ce qui se passe, tout ce qui vous trouble, tout ce qui vous brutalise, tout ce qui a été fait, tout le mal qu'on vous a fait, toutes les injustices. Et vous dites, mais je ne suis pas coupable dans cette affaire. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, ouvre-moi mes yeux. Si cette situation met en lumière quelque chose qui ne va pas dans ma vie, alors que je sache mettre en règle. On a besoin d'être devant Dieu, sans aucune, comment dire, c'est sans façade, sans masque. On est tel quel et on lui dit, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur dans cette situation. J'ai bien peur d'aller trop loin et je ne veux même pas commencer à ouvrir la bouche parce que je suis persuadé que je ne pourrai pas me contrôler. Je ne pourrai pas, j'ai tellement de revendications dans mon cœur. Et vous dites les choses simplement. Parce que c'est lui qui est votre berger, c'est lui qui est votre soutien, c'est lui qui vous console, c'est lui qui tient votre main, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il ne nous abandonnera jamais. S'il nous a parlé de la brebis perdue, qu'il laisse toutes les autres pour aller chercher cette brebis perdue, eh bien vous dites « C'est moi la brebis perdue ». Et il va me chercher. C'est un amour sans fin, sans limite. Inlassable, vous pouvez toujours vous tourner vers lui et lui dire, je suis tombé, j'ai péché, je suis allé trop loin, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, je m'humilie, je te demande pardon, me confie en toi, sonde mon cœur, sonde mes pensées, ramène-moi jusqu'à toi, brise cet endurcissement, brise cette revendication, brise toutes ces rancunes, toute cette méchanceté qu'il y a dans mon cœur, rends-moi doux et humble comme toi. C'est très important, vous savez, de demander à Dieu, d'aller chercher, et c'est par des prières et des supplications et avec des actions de grâce que l'on triomphe. C'est parce que Dieu nous a appelés à être des vainqueurs. Vous ne subissez pas les situations, vous êtes vainqueurs dans l'épreuve. vous êtes vainqueur de l'épreuve. Et cette épreuve qui vous fait souffrir, qui vous fait pleurer peut-être, eh bien servira à la gloire de Dieu. Et peut-être que dans l'éternité, ce sera une des perles de votre couronne. Parce que justement, vous avez triomphé dans un moment d'angoisse et de détresse terrible. Et vous avez dit, Seigneur, on peut me troubler encore, on peut me dire tout ce qu'on veut, on peut faire tout le mal qu'on veut sur moi. Je regarderai toujours vers toi. Je me confierai toujours en toi. Quoi qu'il en soit, c'est toi mon rocher. C'est toi ma forteresse. C'est toi mon tout suffisant. Vous savez, c'est dans l'élan de notre cœur. C'est dans ces moments-là que l'épreuve vous suggère la prière. Vous dites, mais comment j'ai pu prier comme cela? Vous êtes étonné de ce que... Mais cette épreuve a susciter en vous une prière. Vous dites, mais jamais j'aurais imaginé que je pouvais prier comme cela et que je pouvais dire des choses pareilles. C'est le bénéfice de la prière et c'est le bénéfice de l'épreuve. C'est heureusement que nous avons ces épreuves, heureusement. Après, vous pouvez dire, vous préférez autre chose. Mais Paul pouvait dire, c'est dans les épreuves que je me sens bien. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me plais dans les outrages, dans les épreuves, dans les moments, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Je voudrais vous m'arrêter là et vous laisser